Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la présentation, Blaise Chindani Kambala. Mesdames et messieurs, bonjour. D'abord, les titres de ce journal. La vie reprend progressivement son cours normal, 48 heures après le retrait des rebelles de l'FC-M23 de la ville d'Ouvira. Le commerce et le transport interurbain ont repris normalement ce mercredi. Les tirs ayant cessé, de nombreux parents se disent désormais rassurés à l'idée de renvoyer leurs enfants à l'école dès la semaine prochaine. Nous parlerons aussi dans ce journal de la conférence de presse de haut niveau des trois ministres congolais en marche du Forum économique de Davos en Suisse. Les détails dans quelques instants. Dans la province de la Tchopo, le budget provincial pour l'exercice 2026, adopté par l'Assemblée provinciale et promulgué par le gouverneur, fait actuellement l'objet d'une campagne de vulgarisation. Pour en parler, nous recevons les députés provinciaux. Bienvenue, Bolongwe. Encore une fois, bonjour à tous. À Ouvira, la vie reprend progressivement son cours normal 48 heures après le retrait des rebelles de l'FC-M23 de la ville. Le commerce et le transport interurbain ont repris normalement ce mercredi et la circulation se déroule sans encombre. Les tirs ayant cessé, de nombreux parents se disent désormais rassurés à l'idée de renvoyer leurs enfants à l'école dès la semaine prochaine. Le point avec Jean Kassami.
Les activités ont repris et la population vaque librement à ses occupations, témoignent certains habitants de la ville d'Ouvira.
Oui, oui, Ouvira devient vivable, tout le monde est à l'aise, les activités ont commencé, il n'y a pas de problème.
Après les interventions des FARDC dans plusieurs quartiers de la ville d'Ouvira, nous assistons à l'amélioration des conditions sécuritaires dans la ville d'Ouvira et plusieurs boutiques, magasins commencent déjà à ouvrir leurs portes.
Ceux qui sont là sont les autorités militaires, nous attendons que les autorités civiles aussi arrivent, mais arriver n'est pas arrivé, lundi en tout cas on doit reprendre les activités scolaires à Ouvira.
Quelques membres du gouvernement provincial qui avaient fui au Burundi sont attendus dans la ville d'Ouvira ce mercredi. L'équipe de la mairie en premier lieu pour y tenir des réunions importantes. Des points en rapport avec la réouverture des banques, l'aide humanitaire, l'organisation du retour ordonné des Congolais en refuge dans les pays limitrophes au Burundi, en Tanzanie particulièrement, seront débattus en priorité, a dit hier le gouverneur de province au cours de l'émission Dialogue entre les Congolais. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Au nord qui vous voisine, cependant, les véhicules de transport en commun reliant Goma aux localités voisines sont de plus en plus pris pour cible par des hommes armés sur les tronçons Kiwanja, Rwindi, Kanyabayonga, situés sur la route nationale numéro 2 à l'intérieur du parc national de Virunga. Selon plusieurs sources dans les territoires de Rutshuru, le dernier incident en date s'est produit mardi après-midi lorsque deux taxis ont été pris en embuscade près de Rwindi. Un conducteur et au moins trois passagers ont été grièvement blessés. Les détails avec Élise Kavira.
L'attaque est survenue vers 15h locales. Les deux véhicules en provenance de Beni et à destination de Goma transportaient une dizaine de passagers. D'après nos sources locales, l'un des taxis a essuyé des tirs nourris de la part d'hommes armés embusqués aux abords de la route non loin de la Rwindi. Toujours selon ses sources, le conducteur qui aurait tenté de poursuivre sa route pour échapper à l'attaque a été pris pour cible. Plusieurs balles qui ont atteint le véhicule ont blessé en plus au moins trois passagers, dont deux femmes. Après l'attaque, la voiture accidentée a été remorquée par le second véhicule jusqu'à la Rwindi. Cette embuscade est la quatrième attaque signalée en l'espace d'une dizaine de jours sur ce même tronçon de la route nationale numéro 2. En effet, entre lundi 12 janvier et dimanche dernier, trois autres attaques visant les voyageurs ont été enregistrées entre Kiwanja, Rwindi et Kanyabayonga. Ces incidents avaient coûté la vie à au moins deux passagers, fait une quinzaine de blessés, sans compter les biens pillés par des coupeurs des routes. La recrudescence de ces violences dans cette zone occupée par l'AFC-M23, mais où opèrent de nombreux groupes et bandes armées, ravive une vive inquiétude. Surtout parmi les voyageurs et les transporteurs qui empruntent régulièrement cet axe stratégique et essentiel non seulement pour les échanges économiques, mais aussi pour les mouvements humanitaires dans la région.
À Kisangani, pendant ces temps, 15 présumés criminels ont été présentés à la presse ce mardi par le commandant provincial de la police nationale congolaise. Cette présentation s'est déroulée lors de la parade hebdomadaire organisée devant le commandement provincial de la PNC Tshopo. Plusieurs effets saisis entre les mains de ces suspects, notamment des armes à feu et des téléphones portables, ont été également exhibés par le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej. Le point avec Jacques Mukonko.
Parmi ces présumés criminels, 3 ont été interpellés sur place à Kisangani pour vol dans une maison d'un particulier dans la commune Tshopo. Les 2 autres ont été arrêtés à Imbolo, dans le territoire d'Isangi. Selon la police, ceux-ci font partie d'un groupe d'hommes armés à l'origine de l'assassinat d'une femme d'un commerçant à Imbolo. À propos de la criminalité dans cette entité, au moins 4 personnes ont été tuées ces derniers temps. Cette situation a fait d'ailleurs l'objet d'une mission d'enquête de quelques députés provinciaux. En plus de ces présumés criminels, la police a exposé 4 armes à feu, dont une de guerre et 3 fusils de type calibre 12. Plus de 60 téléphones saisis entre les mains de ces brigands ont été également présentés. Par ailleurs, s'adressant aux éléments de la police, le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej les a appelés à la discipline et au respect strict du règlement qui les régit. Objectif, assurer efficacement leur mission, celle de la protection de la population et ses biens. Enfin, à ces derniers, il les a exhortés à la collaboration avec les services de sécurité. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
En marge de la 56e édition du World Economic Forum de Davos, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani-Luko, a animé une conférence de presse de haut niveau aux côtés du vice-premier ministre de l'Économie nationale, Daniel Moukoko Samba, et du ministre des Mines, Louis Wantoum. Cette rencontre s'est tenue dans le cadre d'une journée spéciale placée sous le thème RDC Cœur de l'Afrique. L'objectif était de renforcer la visibilité du pays et de promouvoir son potentiel économique, sécuritaire et minier auprès de la communauté internationale. Plus de détails avec Alain Irong Moshinge.
Au cours de cette séance, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, a présenté les principales réformes engagées par le gouvernement pour renforcer la sécurité, consolider la stabilité institutionnelle et améliorer le climat des affaires. De son côté, le vice-premier ministre de l'Économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a réaffirmé la volonté de la RDC de contribuer à la paix dans la région des Grands Lacs et de bâtir des partenariats durables fondés sur la création des valeurs locales.
Il y a en République démocratique du Congo des réserves de gaz, il y a en République démocratique du Congo des réserves pétrolières, il y a en République démocratique du Congo des réserves importantes de fer, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous mettons l'accent sur ce grand projet naissant du projet minier de fer de la Grande Orientale.
Dans le secteur minier, le ministre Louis Wantoum Kabamba a exposé les réformes en cours et mis en avant les nombreuses opportunités offertes par ce domaine stratégique.
Nous sommes en train de prendre des mesures fortes également pour que des zones économiques spéciales avec des facilités douanières, fiscales, parafiscales et administratives, et des guichets uniques qui soient installés pour que les investisseurs apportent des capitaux et la technologie.
Les 3 membres du gouvernement ont réitéré l'engagement de la RDC à se positionner comme une destination fiable et attractive pour les investissements internationaux.
Retour au pays. Au Nord Kivu, les arrestations arbitraires et détentions illégales liées à la fraude du cacao et du café ont été au centre d'une rencontre organisée mardi à Kassindi-Loubiria par la société civile locale. Cette commune rurale du territoire de Beni, frontalière de l'Ouganda, est située à 90 km de la ville de Beni, a réuni agriculteurs, acheteurs et exportateurs locaux. L'objectif, clarifier les responsabilités, mettre fin aux abus et renforcer le suivi des activités de contrôle dans la filière. Marc Marofimbo pour les détails.
Depuis le mois d'août, au début de la grande saison des récoltes, des alertes ont été émises sur l'ampleur de la fraude. Plusieurs agriculteurs, acheteurs et exportateurs ont été arrêtés par les services étatiques, certains arbitrairement, d'autres détenus illégalement, simplement pour être en possession de cacao, dénonce la société civile. Lors de la rencontre, celle-ci a insisté sur la nécessité pour les services étatiques de mettre fin à cette confusion persistante, explique Paul Zaidi, rapporteur de la société civile à Kassindi-Loubiria.
Il s'observait une confusion totale. Il y a 2000 militaires, certains policiers et agents de renseignement avaient tendance d'arrêter tout celui qu'on pouvait retrouver avec les cacao. Il était sujet d'une arrestation ou bien d'une détention illégale. Émissaire du gouverneur de la province du Nord Kivu, il a tonné fort sur les dérapages et nous sommes en train d'observer si réellement toutes les recommandations qui ont été formulées seront respectées.
Depuis décembre dernier, le gouvernement provincial au Nord Kivu a installé une brigade de contrôle et de vérification autour de la production et de l'exportation de cacao à Kassindi-Rubiria pour lutter contre la fraude. La société civile appelle désormais à un suivi permanent de cette brigade afin d'éviter tout nouveau dérapage impliquant les services de l'ordre. Beni, Marc Marufimbo, Radio Kapi.
Et puis la Direction générale d'immigration de Gemitouri dispose désormais d'un nouveau bâtiment administratif, une infrastructure moderne destinée à améliorer les conditions de travail des agents et la qualité du service rendu à la population. La cérémonie d'inauguration a été présidée mardi à Bounia par le gouverneur de province en présence de plusieurs autorités et des représentants des agences du système des Nations Unies. Martial Kiza Biamongu.
Composé de plusieurs bureaux et appartements, ce bâtiment constitue un véritable soulagement pour les agents de ces services migratoires. Le directeur provincial de la DGEM-Ituri estime que ce nouveau cadre de travail va accroître l'efficacité des agents et améliorer la qualité des services rendus à la population congolaise aussi qu'aux ressortissants étrangers. Sixte Ngoyi Mukalai.
Ce projet met un accent sur l'humanisation des services impliquant le respect des droits des migrants, les renforcements des capacités dans les domaines de renseignement.
Le gouverneur des provinces qui a procédé à l'inauguration de l'ouvrage a appelé les agents et le personnel de la DGM à protéger et à préserver ses patrimoines publics. Pour le lieutenant général Jody Luboyan Kanchama, ce bâtiment s'inscrit dans la dynamique des modernisations de l'administration publique à l'Ituri.
Tous les usagers de ce bijou à le maintenir comme il est aujourd'hui, car la société nous évaluera demain.
Construit en espace de 6 mois sur fonds propres, ce bâtiment sera doté d'un système de caméras de surveillance. Bounia, Martial Kizabiamongu, Radio Okapi.
À Kananga, les conducteurs de moto-taxi ont repris leurs activités ce mercredi après une grève observée toute la journée de mardi. Selon plusieurs d'entre eux, ce mouvement visait à dénoncer les tracasseries dont ils s'estiment victimes de la part de la police. Ils accusent notamment les agents d'immobiliser leurs motos sans motif valable et d'exiger des amendes allant de 100 000 à 500 000 francs congolais pour les récupérer. Cette grève a fortement perturbé la mobilité dans la ville. Élèves, travailleurs et étudiants ont été contraints de parcourir des longues distances à pied pour rejoindre leur lieu d'activité. Certains sont arrivés en retard, tandis que d'autres ont préféré rester chez eux face aux difficultés de déplacement. Dans la province du Maniema, les enseignants de Kailo ainsi que ceux de l'Axe Nyoka et des environs ont décidé de suspendre leur mouvement de grève lancé le 6 janvier dernier. L'annonce a été faite ce mardi 19 janvier par leurs représentants et porte-parole Misenga Chamilungu Stéphane lors d'une adresse à la presse. Selon lui, cette décision fait suite au paiement de 2 mois d'arriérés des salaires, novembre et décembre, ainsi qu'à la réception d'une correspondance du président de l'Assemblée provinciale. Cette lettre confirme des avancées significatives dans les démarches visant à transférer les enseignants de la Caritas vers une autre banque pour la paye. Misenga Chamilungu Stéphane invite ainsi ses collègues à reprendre le cours dès ce mercredi 21 janvier en attendant l'aboutissement complet du processus de délocalisation bancaire. Florence Kizalunga.
Depuis la reprise des cours le 6 janvier, après les vacances de Noël et de Nouvel An, les écoles publiques de Kailo étaient paralysées par la grève des enseignants. Une situation qui pénalise les élèves, lesquels perdent 2 jours de cours sur les 222 prévus dans les calendriers scolaires. L'implication de l'Assemblée provinciale redonne de l'espoir aux enseignants. Leur porte-parole, Misenga Chamilungu Stéphane, salit ces avancées.
Notre première institution de la province de Maniema nous a donné une correspondance témoignant qu'il y a des trimestre, nous allons quitter à la Caritas. Les enseignants qui soient toujours apaisés avec la décision prise à Kinshasa, qui prennent leur mal en patience. Deuxième trimestre, nous aurons à nous séparer avec la Caritas. Ils vont nous fixer dans l'une des banques payées ici à Kindu. Si jamais la lettre nous octroyée par le président de l'Assemblée provinciale du Maniema serait sans succès, la grève sera reprise. C'est-à-dire, en tant que le porte-parole des enseignants, les syndicalistes, je suspends la grève et non la levée.
Par ailleurs, le porte-parole appelle les parents à envoyer leurs enfants à l'école afin qu'ils puissent reprendre l'apprentissage. Ce mercredi matin, Pédeleuve était toutefois présent dans les établissements. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Dans la province de la Lomami, les robinets de la régie des eaux sont à sec depuis près d'un mois dans la ville de Mweneditu. Privés d'eau potable, les ménages doivent parcourir de longues distances pour s'approvisionner dans des sources non aménagées, une situation qui expose la population à un risque accru des maladies hydriques. Face à cette crise, la régie des eaux affirme avoir engagé des mesures en collaboration avec l'entreprise chargée des travaux de la nationale numéro 1. Les interventions annoncées consiste notamment à curer les sables accumulés dans les bassins de captage de la rivière Moussadi, principal point d'alimentation en eau de la ville. Des explications avec Esther Ndalafina.
Angélique Kabedi, ménagère, raconte parcourir chaque jour plusieurs kilomètres pour puiser l'eau dans des sources non aménagées. La quantité ramenée ne suffit pas pour couvrir tous les besoins du ménage, déplore-t-elle.
Partons à la source, puiser de l'eau. J'ai 10 enfants, nous revenons avec 2 bidons d'eau, ça ne suffit pas pour les travaux ménagers.
Du côté de la régie des eaux, le directeur régional Didier Moudilelo reconnaît que les travaux de la nationale numéro 1 ont affecté le bassin de captage de la rivière Moussadi, principale source d'approvisionnement de la ville.
Si nous sommes en difficulté à Mweneditu, c'est suite à la construction de la RN1, spécialement le pont sur la rivière Moussadi. Et avec ces travaux, la protection naturelle de la baie qui protégeait les lits de la rivière de laquelle nous avons l'eau, tout est envahi de sable. Et ce sable-là bouche nos filtres dans les bassins captants et on ne sait plus avoir de l'eau.
Il assure que des mesures ont été prises en collaboration avec l'entreprise en charge du chantier pour curer le sable accumulé et rétablir progressivement la distribution. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, avant d'aller plus loin, le parc national des Virunga annonce une nouvelle naissance au sein de la population des gorilles des montagnes. Sebu Timbiri, une femelle de la famille Mapua, a récemment mis au monde un petit mâle, indique l'administration du parc. Avec cette arrivée, l'effectif de cette famille établie dans le secteur des Mikeno, l'un des principaux habitats de gorilles de montagne dans les territoires de Rutshuru atteint désormais 28 individus. Il s'agit de la deuxième naissance enregistrée depuis les débuts de l'année 2026 au sein du parc. Cette annonce intervient quelques semaines après un événement exceptionnel, la naissance rare des jumeaux gorilles le 3 janvier dernier dans la famille Bageni. Le parc rappelle que la population mondiale de gorilles de montagne est estimée à environ 1100 individus, dont plus d'un tiers vivent dans les parcs nationaux des Virunga, soulignant ainsi le rôle essentiel de cette aire protégée dans la conservation de cette espèce menacée.
Actualité internationale.
Les électeurs congolais sont convoqués aux urnes le samedi 15 mars pour le premier tour de l'élection présidentielle. La date arrêtée par le gouvernement a été communiquée mardi 20 janvier. Or, depuis un moment, les médias évoquaient la date du samedi 22 mars qui n'était pas officielle, assure le gouvernement.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, le budget provincial pour l'exercice 2026, adopté par l'Assemblée provinciale et promulgué par le gouverneur, fait actuellement l'objet d'une campagne de vulgarisation. L'objectif est de permettre à la population de mieux s'approprier ces documents et de suivre son exécution. C'est dans ce cadre que le député provincial Bienvenu Bolongbe mène depuis quelques jours une série d'activités d'information et de sensibilisation. Pour en savoir davantage, il s'exprime dans cet entretien accordé à Jacques Moukonkole.
Bienvenue Bolongue. Pourquoi considérez-vous les lieux de culte comme étant des relais indispensables pour le suivi de l'exécution budgétaire?
Les leaders, nous sommes tous, que ce soit les politiques, nous les députés provinciaux et aussi l'équipe de l'exécutif, nous tous, nous sommes sous l'autorité morale et spirituelle des princes des religions. C'est-à-dire, lorsque les leaders religieux passent les messages, ça va nous atteindre tous. Pour ce qui est de contribuables congolais, nous tous nous fréquentons les organisations religieuses, que ce soit les églises, que ce soit les mosquées. Nous avons pensé qu'en sensibilisant les leaders religieux, nous allons certainement atteindre toutes les couches de la population dans le cadre de la publicité.
Concrètement, qu'attendez-vous de ces leaders religieux? S'agit-il seulement de vulgariser les chiffres du budget auprès des fidèles ou espérez-vous qu'ils jouent un rôle actif de contrôle citoyen sur les chantiers et services publics financés par la province?
Vous savez, la bonne gouvernance a des principes. Nous avons par exemple le principe de la transparence, nous avons le principe de la responsabilité, le principe de participation citoyenne, nous avons le principe de la redevabilité, mais aussi la capacité pour trouver solution aux problèmes de la société. Et dans le principe de la transparence, mais aussi de la participation citoyenne, voilà pourquoi nous sommes dit, nous devons associer les leaders religieux. Ici, nous voudrions faire quoi? Nous voudrions tout d'abord rendre accessible les dits budgétaires. Et en rendant accessible les dits budgétaires, nous voudrions à ce que la société, les leaders religieux se prennent de toutes les lignes budgétaires. Et de cette manière-là, ça va permettre à ce que la population puisse participer à la bonne gouvernance pour que la population puisse avoir le temps de faire les contrôles citoyens. Lorsque la population est capable de donner des avis sur l'utilisation des fonds, je pense que l'exécutif sera en mesure de prendre les décisions de l'usage de ces fonds-là pour des fonds utiles.
Alors, comment comptez-vous collaborer avec les confessions religieuses pour s'assurer que chaque franc décaissé arrive réellement à destination et serve l'intérêt de la population?
Vous savez, nous avons plusieurs contrôles. J'ai tantôt parlé ici des contrôles citoyens. Nous avons les contrôles juridictionnels. Nous avons aussi les contrôles politiques ou parlementaires que nous effectuons. Nous voudrons à ce que, par exemple, au niveau de l'Assemblée, après 3 mois ici, l'Assemblée va procéder au contrôle de l'exécution budgétaire au premier trimestre. Et le rapport de ces contrôles-là sera partagé avec les leaders religieux. Donc, c'est-à-dire, nous voudrions vraiment que nous puissions atteindre la gouvernance participative pour que ces derniers, les leaders, la population, puissent avoir aussi des avis à émettre, lesquels avis doivent certainement contribuer à améliorer la gouvernance au niveau de la province.
Pour terminer, quel message avez-vous à adresser aux fidèles en particulier et à la population en général dans la Tchoko?
Oui, en fait, le message, c'est celui-ci. La bonne gouvernance, c'est elle qui contribue à l'amélioration, à la croissance de l'économie d'une province, d'un pays. La bonne gouvernance nous permet de renforcer la stabilité politique. Aujourd'hui, on en parle de la stabilité. C'est la bonne gouvernance. En fait, les fonds publics doivent être gérés publiquement. La province ne doit pas fonctionner comme une boîte noire, non. Tout doit être transparent. Voilà pourquoi j'en appelle aux leaders religieux de s'approprier ce principe de publicité budgétaire afin de permettre aussi bien aux fidèles, à la société civile, de participer aussi à la gouvernance de la province avec des contrôles citoyens. C'est de cette manière-là que nous allons contribuer à booster le développement de notre province et à lutter contre la pauvreté.
Bienvenue Bolongue, merci.
C'est à moi de vous remercier.
C'était notre invité, Bienvenue Bolongue, qui s'entretenait avec Jacques Mkonkole. Et c'est la fin de notre édition du journal de la mi-journée qui a connu la coordination et la supervision éditoriale d'Ale Iron Monchige et la mise en onde était assurée demain des maîtres par Pierre Diassinois. Merci de nous avoir suivis.